Louange et remerciement à Dieu, notre Seigneur, pour sa grâce et sa fidélité qui nous permettent d'être ici ce soir. Ce n'est pas une évidence que l'on vienne ici ou que nous venions ici, mais c'est la grâce de Dieu par laquelle il nous couronne et nous maintient nous et nous permet de nous réunir encore devant sa face, qui nous permette donc aujourd'hui de redresser la tête vers lui, car il est le roi et c'est lui que nous voulons voir. Que Dieu nous aide à le voir et à le percevoir avant de prier et d'invoquer notre Seigneur. Je ne sais pas comment vous vous sentez dans votre cœur, mais j'y pense si souvent, nous devrions prier beaucoup plus. Nous devrions nous présenter beaucoup plus souvent devant notre Seigneur, lui ouvrir nos cœurs. Nous devrions plutôt profiter du temps qu'il met à notre disposition pour l'adorer et le remercier. Nous ne devrions pas nous taire, mais ouvrir la bouche, mouvoir nos lèvres, laisser nos cœurs se remplir de sa grâce, de son esprit, afin que nous puissions lui offrir des actions de grâce. Qu'il nous aide à le faire et qu'il nous fasse grâce. Maintenant, je voudrais peut-être lire une parole que nous connaissons tous très bien. Dans 2 Timothée, l'apôtre Paul écrit ceci et dit, 2 Timothée au chapitre 2 du verset 8, 2 Timothée chapitre 2 du verset 8, garde en mémoire Jésus-Christ qui est ressuscité d'entre les morts et qui est issu de la postérité de David. Tel mon message. Tel est mon message de salut, pour lequel je dois endurer des souffrances, même des chaînes, comme un criminel. Mais la parole de Dieu n'est pas enchaînée. Verset 10, c'est pourquoi aussi je supporte tout avec constance à cause des élus, afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est en Jésus-Christ avec la gloire éternelle. Verset 11, la parole est certaine. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Si nous persévérons, le verset 12, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le renions, lui aussi nous reniera. Verset 13, si nous sommes infidèles, il reste fidèle, car il ne peut se renier lui-même. Jusque-là, cette parole précieuse et sainte, nous savons en effet, d'après ce que nous ont laissé les Écritures, que l'apôtre Paul a écrit beaucoup de choses à Timothée, qu'il l'a si souvent encouragé et lui a indiqué de quelle manière il devait se comporter, se conduire. Et il dit ici, comme nous l'avons lu, garde en mémoire au verset 8, garde en mémoire Jésus-Christ qui a été ressuscité d'entre les morts, qui est issu de la descendance de David, comme le dit mon message de salut. Je ne sais pas si nous regardons notre époque ou disons les choses comme elles sont, si nous prononcions cette parole à notre époque, ou si elle était prononcée, on dirait immédiatement quelle prétention, qui peut prétendre que ce qu'il apporte est le message du salut. L'apôtre Paul, un homme choisi par Dieu, un homme élu par Dieu et destiné à cela, il le dit, quel est mon, selon mon message de salut, tel est mon message de salut avec une certitude sans pareil. Il exprime et il dit ensuite au verset 9, pour lequel je dois endurer des souffrances, même des chaînes, comme un criminel, mais la parole de Dieu n'est pas enchaînée. Et cela a été la preuve que c'est la vérité, car la vérité, comme nous le savons tous, a été combattue dès le début. Dès le début, la vérité a été écrasée, abattue même. Et c'est à partir de là qu'un Paul a pu mesurer et reconnaître que ce qu'il a dit était la vérité absolue. Et si nous regardons dans notre époque, je peux bien le dire et nous le rappeler, la parole qui nous est parvenue est la vérité absolue, car elle est combattue, elle est abattue, elle est écrasée dans les chaînes, voire dans la calomnie. Si l'apôtre Paul a pu exprimer cela et dire qu'il a annoncé le message du salut et ceux qui l'ont accepté, qui l'ont entendu, alors nous savons que cette parole qui a été annoncée à notre époque est la même parole et elle porte les mêmes caractéristiques. Que Dieu nous donne la grâce de porter avec l'apôtre Paul, avec ceux qui nous ont précédés, et de porter la vérité, le message du salut dans ce monde. Nous savons qu'à notre époque, il est très difficile et pas facile de dire la vérité. Qui écoute la vérité? Car tout ce qui est dit est la vérité détournée, la vérité renversée, et l'humanité l'accepte. Qui écoute la vérité? Parce qu'elle a été raillée, bafouée, voire abusée. Et c'est là que l'apôtre Paul dit au verset 10, c'est pourquoi aussi je supporte tout avec persévérance à cause des élus, afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est en Jésus-Christ avec la gloire éternelle. Le verset 11, la parole est certaine. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Donc, il n'y a donc pas d'échappatoire. Et il dit ensuite que nous ne vivons pas seulement avec lui. Verset 12, si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous renions, c'est tout aussi vrai. Verset 12, si nous renions, lui aussi nous reniera. Verset 13, sommes-nous infidèles? Et c'est aussi exact. C'est fiable. C'est vrai, cette parole. Si nous sommes infidèles, le verset 13, il reste fidèle. Et c'est merveilleux. Verset 13, car il ne peut pas se renier lui-même. La deuxième partie, que Dieu nous fasse la grâce de rester fidèle jusqu'à la fin à lui et à sa parole, à ce que nous avons entendu de lui jusqu'à la fin. L'apôtre Paul a dit qu'il était dans les chaînes, mais que la parole de Dieu n'était pas dans les chaînes. Elle a été apportée à l'extérieur partout. Que Dieu nous fasse donc la grâce que la parole qui nous a été donnée, nous la portions encore là, répandions dans le temps où nous vivons. De quelle manière? Il le sait. Mais qu'il mette dans nos cœurs que nous allions de l'avant avec lui, que nous attendions avec lui et que nous persévérions dans ce qui est ferme, afin que nous régnions aussi avec lui, afin que nous reconnaissions sa fidélité et que nous lui restions fidèles à la louange et à la gloire de son nom, car il ne peut pas se renier lui-même, car il est la vérité et la vérité demeure. Levons-nous et prions. Père Céleste, nous venons encore ensemble devant ta face, ô Dieu, et nous te remercions pour ta fidélité, pour ta parole au Seigneur. Nous n'en sommes pas dignes ni de valeur, ô Dieu, nous sommes encore capables et encore moins capables, Seigneur, de t'apporter les remerciements dus au Dieu du ciel. Nous ne pouvons pas le saisir ni l'exprimer, Seigneur, et à toi, ô Seigneur Jésus-Christ, nous rendons toute la gloire, Seigneur, car, Seigneur du ciel, tu es allé pour nous, tu as pris la place pour nous, ô Dieu. Je te prie de m'accorder ta grâce. Ô Seigneur, accorde-nous toute la grâce et la force nécessaire, ô Dieu, de t'honorer, de te louer. Ô Seigneur, car tu es digne, Seigneur, d'accepter la louange, la gloire, l'adoration, l'honneur et l'adoration au Dieu, de recevoir tout cela. Seigneur, ton heure était venue, Seigneur, et tu es allé, Seigneur. Ô Dieu, ton temps reviendra où tu reviendras, ô Seigneur. Donne-nous la grâce, ô Seigneur. Donne-nous la puissance, ô Seigneur, de t'attendre, ô Seigneur Jésus-Christ, avec ardeur, ô Seigneur. Mon Dieu et mon Sauveur, donne-nous la grâce, Seigneur, que nous soyons prêts à te recevoir, car, Seigneur, le temps est venu. Seigneur, les signes l'indiquent, Seigneur, que le temps est écoulé. Seigneur, je te prie, Jésus-Christ, commence par moi, ô Seigneur, commence par nous tous, Seigneur Jésus-Christ, afin que nous puissions t'honorer et te louer. Seigneur, afin que nos cœurs s'ouvrent à toi, ô Dieu, afin que nos bouches s'ouvrent, ô Seigneur, afin que nous puissions te louer et t'adorer, Seigneur. Puisque ta parole, ô Seigneur, n'est pas enchaînée, elle n'est pas tenue, retenue, mais elle est libre, ô Dieu, et tu parles librement, ô Seigneur. Accorde-nous la grâce de marcher dans cette liberté, de t'honorer et de te louer, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Louange et merci, ô Seigneur, de nous permettre d'être à nouveau ici. C'est un privilège. Et si nous pouvons adorer, nous devons saisir l'occasion. Fred Schmidt a déjà exprimé ce que nous ressentons tous, que nous aimerions parler à Dieu, parler de telle manière que nous ayons la certitude qu'il écoute ce que nous disons et aussi la certitude que ce que nous disons lui plaît et est dans sa volonté. Il est prié partout, on prie partout, nous le savons tous, ce n'est pas nouveau, il y a certainement des gens qui prient beaucoup plus que nous. Mais ce qui compte, c'est de prier vraiment dans la volonté de Dieu, de parler avec Dieu, et comme le Seigneur lui-même l'a dit, de ne pas faire beaucoup de discours, de paroles, mais de dire à Dieu ce qui nous touche. Et puis, il y a tellement de choses que nous devons encore avoir la grâce et apprendre du Seigneur ce que nous devons lui apporter de toutes ces choses qui nous occupent. Mais il est écrit, s'il nous exauce, c'est que nous avons reçu de lui. Donc, s'il nous écoute, c'est que nous avons reçu de lui les demandes que nous lui avons présentées. 1 Jean 5, verset 15. Il faut donc prier dans sa volonté pour qu'il puisse exaucer et répondre. Quand la parole a été lue ici, qu'elle n'est pas enchaînée, vous savez, bien que la parole parle de la parole, que l'on lise ou que l'on entende, Il s'agit toujours d'une seule chose, de la parole de Dieu qui demeure éternellement. Il s'agit de l'évangile de Jésus-Christ. Et cette parole de Dieu n'est pas enchaînée. Nous avons lu ici qu'il était enchaîné comme un criminel, mais la parole de Dieu n'est pas enchaînée. C'est pourquoi je supporte tout, il relit le verset 10 de 2 Timothée 2, avec fermeté à cause des élus. On prêchait à tout le monde. Tous ont écouté la parole. Mais les souffrances et toutes ces circonstances, ce qu'il devait effectivement endurer lui-même, c'était à cause des élus. Lui-même, et soulignons-le tranquillement aujourd'hui, lui, ce Paul, était un élu de Dieu, un ustensile, un outil choisi de Dieu. Pourquoi faire? Pour quelles raisons? Pour les élus, pour pouvoir leur apporter la parole de Dieu par révélation. Il n'a pas du tout révélé de mystère profond aux Corinthiens. Il dit, vous qui devriez être des maîtres depuis longtemps, vous avez encore besoin de lait. 1 Corinthiens 3, 2. Mais si nous considérons l'église d'Éphèse, même déjà les épîtres aux Romains et les épîtres aux Galates, nous voyons à quel point il a pu y pénétrer profondément dans les mystères de Dieu. Ici, j'ai remarqué quelque chose de Timothée 2, verset 11. La parole est certaine. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Verset 12, si nous persévérons. Avec constance. Et là, nous souvenons de la parole de Jacques, selon laquelle nous devons persévérer, car la venue du Seigneur est proche. Dans 2 Timothée, chapitre 1, verset 13, Paul dit, 2 Timothée 1, verset 13, comme modèle de saine doctrine, retiens celle que tu as entendue de moi dans la foi et l'amour qui ont leur racine en Jésus-Christ. Verset 14, garde le bien précieux qui t'a été confié par le Saint-Esprit qui habite en nous. Paul était conscient qu'il ne s'agissait pas seulement de paroles, mais d'un bien précieux qui lui avait été confié. Les saints enseignements, les saines doctrines des saintes écritures, pouvait-il dire que tu as entendu de moi, garde cela dans la foi et l'amour qui est enraciné dans le Christ Jésus. Chaque enseignement, tout ce qui est apporté, doit avoir Christ comme point de départ et aussi comme objectif. Si quelque chose d'autre y est lié et par la gloire et pas et quelque chose d'autre y est lié et que ce n'est pas la gloire de Dieu, et la glorification de Jésus-Christ, alors nous avons parlé à côté de Dieu. Cela n'en voulait pas du tout la peine. Nous remarquons qu'il s'agit de donner toute la gloire à Dieu. Verset 14, il relit, « Garde le bien précieux qui t'a été confié par le Saint-Esprit qui habite en nous. » La même parole qui a été révélé par l'Esprit doit être maintenue vivante et préservée par l'Esprit en toi et en moi. Dieu peut faire les deux. Il peut donner, il peut conserver, maintenir et aussi garder. Ensuite, il est dit au chapitre 2, verset 2, 2 Timothée chapitre 2 verset 2, et ce que tu as entendu de moi avec la confirmation de nombreux témoins, confie-le à des personnes dignes de confiance qui seront capable de l'enseigner aussi à d'autres. Cela aussi est très important. Paul dit ici ce que tu as entendu de moi avec la confirmation de nombreux témoins. Paul n'a pas murmuré à l'oreille de Timothée en lui disant « Écoute ceci ou cela ». Ce que l'homme de Dieu prêchait, beaucoup d'autres l'ont entendu et pas un seul n'a pu venir dire « Oui, mais il m'a confié quelque chose de très spécial à moi ». Non, ce qu'une seule personne a entendu, toutes l'ont entendu. Ce qui était pour une personne était pour tous. Avec Dieu, il n'y a pas de secret. Comme c'est le cas ces jours-ci, on s'étonne parfois de l'art, de la séduction de l'ennemi. Si quelqu'un me dit qu'il a 1000 façons de faire, je ne le contredirai pas. Certainement pas. Si des personnes qui ont entendu la parole de Dieu se laissent simplement balloter ou mouvoir par n'importe quel vent de n'importe quelle doctrine. Mais ici, nous sommes avertis à retenir ferme et à transmettre ce que nous avons entendu sous la conduite de témoins, sous la confirmation de témoins. Et cela doit être confié à des personnes fiables, pas des gens qui en font leurs propres affaires, mais des hommes fiables, dignes de confiance, qui ont fait leurs preuves, qui reçoivent eux-mêmes ce que Dieu a révélé, et cela peut leur devenir une révélation pour eux-mêmes, afin de le transmettre ensuite à d'autres et de les instruire à nouveau, d'être capable de les enseigner. Il n'a pas fallu longtemps pour que cette âge chrétienne prenne fin. Et le même Paul qui a donné un tel avertissement si profond écrit, je sais qu'après mon départ, plusieurs se présenteront, que des loups feront irruption, qu'ils déchireront le troupeau et qu'ils présenteront des doctrines qui ne sont pas justes. Et il dit, l'Esprit annonce ce qui doit arriver dans le dernier jour. Si l'on considère tout cela, il suffit de lire un peu plus loin, le chapitre 2 de Timothée, de 2 Timothée, pour y trouver de nouvelles exhortations à partir du verset 14. 2 Timothée 2, verset 14, « Rappelle ceci à tous et avertis-les instamment devant la face de Dieu de ne pas se laisser entraîner dans des querelles de mots qui ne servent à rien et ne font que troubler ceux qui les écoutent. Si Dieu nous parle par sa parole et que quelqu'un a encore envie d'en discuter, un tel homme ne croit pas que Dieu ait parlé avec lui. Si Dieu nous a parlé, nous n'avons pas envie de nous disputer avec d'autres sur la parole de Dieu. Nous devenons alors intérieurement reconnaissants. Nous n'avons alors pas envie de discuter à ce sujet, mais de croire vraiment de tout notre cœur et de recevoir la parole. Partout où l'on prend la parole de Dieu pour comme prétexte pour en débattre, les auditeurs sont détruits et troublés. Et est-ce que c'est devenu vrai? Vous pouvez prendre n'importe quelle parole de Dieu, de Genèse 1, verset 1, à Apocalypse 22, dernier verset, et nous constaterons ensemble que chaque parole de Dieu est la vérité absolue et pure. Tôt ou tard, nous verrons l'accomplissement, qu'il nous convienne ou non, nous devrons admettre que tout ce que Dieu a dit est vrai. Cela se réalise car il sait comment les choses seront avant qu'elles n'arrivent. Le verset 15 dit « Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a pas à avoir honte parce qu'il présente avec exactitude la parole de la vérité. » C'est une chose qui m'a tenu à cœur depuis que je suis devenu croyant. Si je dois annoncer la parole de Dieu, je dois le faire de manière à pouvoir tenir devant Dieu. Pas seulement devant les hommes, mais aussi devant Dieu, afin de présenter et de partager correctement la parole de vérité. Maintenant, l'avertissement continue au verset 16. En revanche, tu n'auras rien à faire avec les bavardages vides et vides de sens et sans valeur, car en les tenant, ils s'enfonceront de plus en plus, dans l'éloignement de Dieu. N'est-ce pas? Ils s'enfoncent de plus en plus dans l'éloignement de Dieu. Ils peuvent parler de Dieu autant qu'ils veulent, dire tout ce qu'ils veulent sur la parole de Dieu. S'ils le font en se disputant, en se donnant des droits et des raisons, et ainsi de suite, Dieu n'y est pas du tout dès le départ. Et c'est pourquoi cela conduit à toutes les choses décrites ici jusqu'à l'éloignement de Dieu. Et puis aussi les paroles ici comme un cancer, mais nous avons déjà tout cela derrière nous, que devons-nous en faire devant nous? Dans Genèse 22, il y a la parole d'Abraham avec le paysage de Moria. Je voulais juste lire cela en complément pour dimanche. Nous en avons parlé ici dans Genèse 22 du verset 1. Genèse 22 du verset 1. Après ces événements, Dieu voulut mettre Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, celui-ci répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Moria et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Aussi, le verset 4 est peut-être également important. Le troisième jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Verset 5. Abraham dit alors à ses serviteurs, restez ici pour vous avec l'âne. Mais moi et l'enfant, nous irons là-bas pour adorer, puis nous reviendrons ici vers vous. La foi d'Abraham est ici exprimée en parole telle qu'elle a été mise en pratique par la suite. Abraham savait qu'il devait offrir Isaac en sacrifice, car c'est ce qui lui avait été ordonné. C'est ainsi qu'il lui a été en holocauste, oui, et offre-le là en holocauste. Vous savez ce que c'est qu'un holocauste? La victime est tuée et est brûlée. Ce qui reste, ce sont les cendres. Et que s'est-il passé? L'homme de Dieu dit au serviteur, restez ici. Moi et mon fils allons adorer, puis nous reviendrons tous les deux. Et il savait parfaitement qu'il devait l'offrir en l'Holocauste. Abraham était convaincu que le Dieu qui lui avait fait la promesse, en Isaac, toutes les générations seront bénies, toutes les descendants seront bénies, et ainsi de suite, grande sera sa descendance. Il savait très bien que même si je tue mon fils et que je l'offre en holocauste et qu'il ne reste que des cendres, Dieu me le rendra et nous reviendrons tous les deux ensemble, car c'est de la poussière que nous avons été pris et c'est de cette poussière qu'il peut de nouveau nous reprendre. Ça, c'est une foi qu'on ne peut pas décrire avec des mots. Abraham est aussi appelé le père de la foi. Vous voyez déjà de quoi il s'agit. Abraham ne croyait pas n'importe quoi. Il croyait en la résurrection. Il croyait que s'il sacrifiait Isaac, il le récupérerait. Et il pouvait dire, nous allons adorer et nous reviendrons. Tous les deux. Nous reviendrons tous les deux. Oh, quelle parole glorieuse. Quelle foi. Bien-aimé, Dieu lui avait parlé et nous devons simplement dire et redire que Dieu nous a aussi parlé. Sinon, nous ne serions pas là ce soir. Il peut parfois sembler que le Seigneur fait traverser à ceux à qui il a parlé des épreuves qu'il ne pourrait faire traverser à personne d'autre. Il pourrait tous y passer, peut-être. Prenez ces hommes de Dieu, ici aussi Abraham, un bon exemple. Qui aurait pu prendre sur lui ce qu'il a pris sur lui? Mais Dieu avait un chemin avec lui. Et qui peut comprendre les voies de Dieu? Qui peut les saisir? Qui peut les comprendre? Comme ses jugements sont incompréhensibles et ses voies insondables. Romains 11, verset 33. Autant les cieux sont supérieurs à la terre, autant ses pensées sont supérieures aux nôtres et ses voies supérieures à nos voies. Qui peut comprendre et saisir tout cela? Puis ici, au verset 13, Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Je l'ai déjà dit dimanche, un bélier est un mouton mâle. Et Abraham a déjà vu ce bélier comme une référence au Christ, l'agneau de Dieu. Et il l'a amené là, l'a offert là. Son fils pouvait vivre. Nous voyons plus tard, lorsque Moïse a appelé le peuple d'Israël à sortir, alors Dieu lui a dit, je prends le premier-né, laissez-moi lire cela pour que je le dise ou le lise exactement, car ma mémoire n'est tout de même plus la même. Il y a ici en tout cas la parole « laisse partir mon premier-né ». Le mot « premier-né » doit être ici lors de la sortie. Doit-il être ici? Oui, c'est ici au chapitre 4. Exode, chapitre 4, verset 22. « Tu diras à Pharaon, Exode 4, verset 22, « Ainsi a parlé le Seigneur. » Israël est mon fils, mon premier-né. Verset 23. Je t'en conjure, laisse partir mon fils pour qu'il me serve. Et vous l'avez lu dans l'histoire d'Abraham. C'est alors que Dieu dit, ton fils unique, celui que tu aimes. Abraham avait beaucoup de fils. Il avait un certain nombre de fils. Et Dieu dit, ton fils unique, celui que tu aimes. Et ici, Israël est mon fils premier-né. Laisse partir mon fils. Et puis plus tard, en effet, l'agneau a été immolé pour tous les premiers-nés afin qu'ils restent protégés. Nous pourrions parler de beaucoup de choses ce soir, mais nous sommes ici pour prier, pour chercher la face de Dieu et pour comprendre sa volonté avec nous, même si c'est très difficile. Nous ferions peut-être mieux d'avancer dans la foi et de saisir ce que nous pouvons saisir et ce que nous ne pouvons pas saisir, tout en avançant dans la foi. Quelqu'un a dit qu'un homme avait des difficultés à marcher et qu'il penchait toujours, mais qu'il se rattrapait, qu'il n'était jamais tombé, alors qu'il avait toujours l'air de manquer de tomber, mais qu'il continuait quand même à marcher parce qu'il pouvait se rattraper. Et je pense que nous aussi, la Bible dit, même quand les jeunes gens trébuchent et que les jeunes gens tombent à terre, le Seigneur les relève et les fait passer au travers. Ésaïe 40, du verset 30 au 31. Je crois qu'ensemble, nous pouvons faire confiance à notre Dieu. Celui qui nous a aidés jusqu'ici continuera à nous aider. Et si Abraham a fait confiance à Dieu et que nous, la descendance d'Abraham, et que nous sommes la descendance d'Abraham, nous voulons faire confiance aussi à Dieu. Et lorsque nous allons prier aujourd'hui, bien-aimés, ayons à cœur que Dieu nous donne des prières que nous pouvons lui présenter. Pas simplement des choses de routine, mais quelque chose que Dieu peut vraiment mettre sur notre cœur. Et c'est ce que nous voulons lui apporter. Et c'est ce que nous voulons tous porter dans la prière. Et comme nous l'avons souvent dit, soyons vraiment brefs, courts dans la prière. Pour le monde entier, nous pouvons toujours prier chez nous, dans notre chambre. Personne ne sait combien de temps nous prions, car nous sommes toujours courts dans nos prières. Dans la chambre, n'est-ce pas? Mais il serait bon que nous apprenions ici à ne dire au Seigneur dans de courtes prières que ce qu'il met justement sur notre cœur pour que ce soit une prière inspirée vraiment par l'Esprit. Mais ne vous sentez en aucun cas à l'étroit. Ouvrez votre bouche et Dieu la remplira. Même si vous ne savez pas encore pourquoi vous devez prier, lorsque vous commencez à prier, cela peut être mieux que si vous le saviez avant. Cela peut être mieux. Et alors Dieu le donnera. Il l'accordera. Mais prenons garde à ce qu'il y ait vraiment autant de personnes qui prient que possible et peu de temps les uns après les autres, afin que l'Esprit de Dieu puisse se reposer sur nous. Et s'il plaît au Seigneur d'agir en nous tous, alors nous nous joindrons tous à lui, car nous sommes ouverts devant Dieu. Nous sommes en effet réunis ici devant notre Père céleste au nom de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, au nom de celui à qui tout est soumis, au nom de celui en qui réside tout pouvoir dans les cieux et sur la terre, au nom de celui en qui tout nous a déjà été donné, au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous sommes ici ce soir. Et c'est en ce nom que nous voulons invoquer Dieu. Et c'est un Dieu vivant, un Dieu qui exauce les prières et qui y répond. Ayons confiance, comme Abraham l'avait. Croire comme il croyait, être obéissant comme il l'était, et Dieu se confessera aussi à nous par grâce. Amen. Père céleste, merci de tout cœur, ô Dieu, pour ta parole de consolation, pour ta parole d'avertissement, d'exhortation. Remercie le Seigneur de nous avoir permis de voir à travers tes paroles les héros de la foi, de voir des hommes enchaînés, mais qui se tenaient là dans la foi et ne reculaient pas malgré les nombreuses tribulations et les difficultés qui les entouraient, Seigneur. Mais ils t'ont cru du début à la fin. Ô Seigneur, Seigneur, nous te prions de nous donner à tous cette foi et aussi la confiance que nous te croirons, que nous nous accrocherons à toi jusqu'à ce que nous arrivions à la foi, à la vue de ce que nous avons cru. Seigneur, donne-la-moi Oh Dieu, donne-la à nous tous. Seigneur, nous te remercions aussi pour les portes ouvertes que tu offres au Seigneur. Seigneur, nous te remercions aussi pour la confirmation de ta parole en notre temps, ô Seigneur. Car Seigneur, là où ta parole est répandue, en vérité, tu donnes encore des hommes et là, tu fais encore venir des hommes à la foi. Gloire à ton merveilleux et saint nom de Jésus. Amen.